Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde, bienvenue en onde. Et nous sommes aujourd'hui le 15 avril, lundi 15 avril. C'est votre animateur ici, Renaud Duval, qui vous parle. Je suis tout à fait content d'être avec vous en onde. Est-ce que vous m'entendez? Ah. Oui, vous m'entendez? OK, parfait, tout est beau. Je suis aujourd'hui accompagné fidèlement de Lily-Jeanne Potel. Bonjour.
Coucou.
Et de Félix Huard.
Bonjour, bonjour.
Et donc, aujourd'hui, nous avons encore une fois une courte émission de une heure. C'est l'avant-dernière émission de cette session-ci, puisque la session finit le 26 avril pour nous étudiants et nous retournons plus tard dans nos patelins. Donc, c'est un plaisir de toujours être avec vous d'ici à ce que ça finisse, parce que ça approche.
Donc, c'est très émouvant aussi pour Renaud, parce que Renaud, ça va à la maîtrise.
Ouais, ouais. Fait que c'est pas clair encore si je vais continuer, si je vais pouvoir continuer non plus. Donc, à suivre, mais je pense que l'émission va assurément continuer à l'automne. Donc,
je l'espère, oui.
Oui, oui, il va y avoir de la relève. Donc, aujourd'hui, quels sont les sujets dont nous allons traiter? Eh bien, d'abord, je commencerai, on va y aller chronologiquement. Donc, on va commencer par Félix, mm-hmm. qui va nous parler... du premier ministre français Gabriel Attal, qui est venu en visite au Québec, au Canada.
Oui, exact. Sa visite, là, je suis un petit peu grippé, donc pardonnez-moi, mais ouais, donc voilà, je vais vous parler de sa visite au Canada qui s'est déroulée de mercredi à vendredi dernier. Donc voilà, une visite à Ottawa, à Québec, puis à Montréal. Il y a différents thèmes qui ont été abordés, niveau économique, culturel, ou dans les partenariats ou diplomatiques.
Ce serait certainement intéressant.
Ouais, donc voilà, je vais vous parler de ça plus en détail.
Et parfait. Et Lily-Jeanne, tu vas nous parler, tu vas faire un tour en Asie, oui. En Corée du Sud plus spécifiquement, où il y a un mouvement féministe assez particulier, on va dire ça comme ça.
Ouais, un mouvement féministe plutôt radical qui s'oppose au patriarcat, qui s'appelle le mouvement 4B, qui est... on n'en entend pas beaucoup parler, donc c'est pour ça que, tu sais, je pense qu'il y a juste... une capsule de type rad un peu que Radio-Canada a publié à part de ça, c'est tous des articles américains et on n'en parle pas ici au Canada, donc c'est pour ça que je trouve ça important de la porter sur la table.
Bien, parfait. Et moi, pour ma part, je vais vous parler en fait d'un projet de loi qui a été déposé et battu à la Chambre des communes à Ottawa la semaine dernière, portant sur le fait de rendre optionnel le serment au roi. Et ça a un lien avec l'Acadie, puisque c'est un député libéral d'origine acadienne, en fait, qui représente un comté acadien, qui a déposé ça pour certaines raisons, notamment historiques très profondes. On va en discuter parce que, aussi, ça a fait un certain choc lorsque ça a été battu, puisque les députés, en fait, pas tous les députés, mais une grande partie des députés se sont mis à entonner un « God save the king » qui sonnait, ma foi, assez impérial, on va dire ça comme
et
ça.
Et colon.
Oui, et colon. Colon, c'est ouais, dans c'est les bon. Deux sens du terme. Ouais. C'était très colon. Donc voilà. Sinon, dans l'actualité, ça a été plutôt mouvementé. Et moi et Félix avons participé activement à l'actualité en fin de semaine, puisqu'il se tenait à Drummondville, le Conseil national du Parti québécois. Sur quoi ça portait, ce Conseil national-là?
En gros, la thématique, c'était l'habitation. Donc, voilà, les membres ont dû... en fait, les membres ont dû... je ne vais pas trop teinter la discussion, mais bref, ont dû se prononcer sur justement des solutions que le Parti... des positions, du moins, que le Parti québécois pourrait adopter pour résoudre la crise... ben, pour pallier à la crise du logement.
Ça concernait autant le logement que l'accès à la propriété, qui était un sujet important. Donc, il y a eu toutes sortes de mesures pour alléger le fardeau des locataires ou des jeunes aspirants propriétaires, notamment allonger les crédits d'impôt sur une première propriété, des choses comme ça, congés de TVQ. Il y a aussi eu ça, c'était assez symbolique puis fort, comme je pense. C'est une proposition des jeunes péquistes d'instaurer le droit au logement, au droit d'habitation, comme droit fondamental dans la Charte des droits et libertés du Québec. Ça, c'était assez fort. Ça a été adopté à majorité.
On a aussi eu droit à des conférences qui portaient sur différents sujets concernant l'habitation, comme le logement social ou le rôle des municipalités dans tout ce brouhaha-là. Puis l'autre, c'était sur les coopératives.
Puis aussi, il y a eu l'économie sociale.
Ouais.
Et ça, ben, pour faire du pouce là-dessus, justement, on a un balado qui est en ligne maintenant. Merci, Lijane, pour le montage.
Vendredi, oui. Oui,
c'est ça. C'était avec une représentante de l'aile jeunesse du chantier de l'économie sociale, Alexandrine Beauvel-Amoureux. Je vous invite à aller écouter ça. Ça portait justement sur la crise du logement et sur le rôle que peut jouer l'économie sociale là-dedans, notamment en transformant ce domaine de l'immobilier qui est parfois teinté d'une volonté de faire de l'argent avant tout, transformer ça en organisation à but non lucratif progressivement. Là, c'est pas le but n'étant pas d'imposer. Donc, puis il y a des positions qui ont été adoptées par le Parti québécois, notamment en ce qui a trait à ça. Et ça a été des beaux débats.
Je trouve qu'on a bien pu, genre, voir le côté coalition du Parti québécois. Il y avait différentes positions qui étaient tant à gauche que plus à droite.
Mm-hmm.
Puis on a réussi comme à démêler ça. Fait que c'était super intéressant. C'était super cool.
Oui, puis parfois, le côté pragmatique, à travers justement l'explication, la vulgarisation de certaines positions, permettait à des gens plus avec une sensibilité à droite de faire « Ah, ben oui, mais ça a de l'allure, tu sais. » Puis je trouve que c'est quelque chose d'intéressant qu'amène le PQ, justement, pour essayer de rassembler les gens. Puis parlant de rassembler les gens, il va avoir... PSPP a mis des bases assez... a mis la barre assez haute en parlant que le troisième référendum, ça s'en venait d'ici la fin de la décennie.
Son discours était très émouvant. Je sais pas s'ils l'ont publié comme en entier ou ils ont juste publié des extraits, mais j'étais très ému en entendant ces discours-là. Qui parlait autant de...
Je peux faire une petite citation si tu veux. Sur la page Instagram, il dit... Nous vivrons bel et bien la tenue d'un troisième référendum sur l'indépendance du Québec et c'est désormais une certitude.
Ouais.
Par conséquent, nous avons le devoir de former la plus grande coalition pour le oui que le Québec n'aura jamais connu et le devoir de la gagner.
Mm-hmm.
Ouais, c'était très beau. Il y avait un gros aspect rassembleur aussi dans son discours. Justement, Lijane a mentionné l'aspect coalition, puis aussi l'aspect...
ça parlait d'amour. En fait.
Ouais, c'est ça, c'était de l'amour, de la fraternité.
Puis éviter la polarisation, en fait, il y avait ça aussi qui avait été mis de l'avant, de dire qu'il faut penser à ce qui nous rassemble, ce qui nous rejoint.
Saisir le réel.
C'est ça, pouce à un autre balado, celui avec Mathieu Bellil qui est sorti également. Je vous invite aussi à aller voir ça, très, très, très intéressant, des belles réflexions.
Puis un peu en lien avec ta chronique que tu vas faire, mais il a vraiment mis au jour, je trouve, l'aspect colonial du gouvernement fédéral, puis de l'espèce de culture comme, genre... britannique un peu, comme, qui règne au Canada.
Impérial.
Impérial. Voilà.
Puis que tout ce qui résiste finit par vouloir être assimilé.
Voilà. Donc c'était vraiment super beau. Là. C'était...
Wow. Oui, c'était quand même un discours assez long, mais
c'était solide.
Mais c'était captivant, tu sais. On pouvait vraiment l'écouter en long et en large, parce que c'est ça, avant de parler d'amour, il a quand même parlé de choses assez dures sur là où s'en allait le Canada. Puis du fait de tous les refus que la CAQ a dû subir en s'avançant parfois de bonne foi, on voyait justement qu'il n'y avait pas un factionnalisme absolu de dire... Parce qu'il disait « Notre ennemi n'est pas la CAQ, c'est le régime fédéral qui nous invisibilise et qui nous précarise progressivement.
»
Puis ça aussi, c'était assez intéressant.
Il a fait une belle mention des peuples autochtones aussi dans son discours.
Oui.
Moi, je l'attendais, mais il l'a fait, donc...
Oui. Voilà. Absolument. Donc, à écouter, je vous conseille vivement. Mais, on vous conseille vivement.
Pour les Premières Nations aussi, ça rentrait dans ces... les critères de l'indépendance aussi. Tu sais, quand il est venu faire la conférence, là, il nous a fait comme les 8 points majeurs du type éducation, santé, nanana. Et il y avait les Premières Nations. Donc, je trouve que c'est un truc vraiment super intéressant qu'il apporte sur la table. T'as raison, Félix. Là. C'est super... Moi, je l'aime bien, PSPP. Mais Renaud, t'étais-tu présent?
Oui, on était tous les deux présents.
Oui, OK, les deux.
On était là à Drummondville, fait qu'on l'a vu en live. Là.
C'était comment, genre, le sentiment? Oh, qu'est-ce que vous ressentiez?
C'est de la frénésie. Là.
Oui.
Moi,
oui.
J'ai eu plusieurs frissons. Là. Puis, tout le monde sait que je suis pas un vendu péquiste. Fait que, genre, j'étais comme, wow, C'était vraiment impressionnant, c'était super beau. Puis il y a eu comme 15 ovations, je pense, pendant son discours.
Ça s'applaudissait pas mal. L'ambiance était éclectique.
Un René Lévesque 2.0, peut-être?
C'est différent, mais...
Ouais, c'est différent.
Mais genre surprenamment charismatique. Genre, moi, je m'attendais pas à ça.
Oui. Puis il y a eu d'autres choses aussi qui ont brassé. En fait, autant que le PQ voulait mettre de l'avant ses propositions sur le logement, les médias n'ont pas arrêté, même durant la fin de semaine. Ça fait une semaine quasiment maintenant là, que les médias ils pourchassent le PQ sur la question du troisième lien. Mm-hmm. Parce que PSP avait apporté une nuance dans une conférence de presse qui n'était même pas destinée à parler de ça. PSP faisait une conférence de presse sur la question de la criminalité dans le métro à Montréal, puisque c'est en hausse et il disait qu'il fallait agir là-dessus. Et les médias, au lieu de lui poser des questions plus spécifiquement là-dessus, lui ont posé plein de questions sur le troisième lien, alors que c'était pas à l'ordre du jour.
Il n'y
a pas eu de nouvelles dans l'actualité par rapport à ça. Mais PSPP a juste voulu être trop, transparent dans sa pensée, puis dire qu'en fait, on n'était pas certain de où on allait être en 2026 sur la question. Peut-être que la situation allait avoir évolué. Donc, il disait, je peux pas. Même si notre position n'a pas changé. Ça se peut que certaines choses changent, mais on verra rendu là. Puis ça a été interprété comme s'il n'excluait pas l'autoroutier, l'autoroutier reste exclu. Donc, il y a eu des luttes à l'interne. À ce niveau-là, ça a fait brasser à l'interne, mais finalement, il n'y a rien qui a changé.
Il a remis les pendules à l'heure.
C'est ça.
Mais ce qui est certain aussi, là, il y a un article qui vient d'être publié à midi sur Radio-Canada, c'est qu'on voit, depuis que PSPP a fait son speech, qu'on a eu la rencontre, vraiment, tu sais, la troisième voie de la CAQ est en train de disparaître, vraiment, puis c'est ce qu'on voit aussi. Donc, ramener le troisième lien, c'est un peu une question...
C'est les médias, c'est les médias. Puis...
C'est le projet de la CAQ, là, tu sais, puis qu'il ne se souvient pas de ça.
Puis ce qui était spécial... aussi, c'est que ça a très peu parlé d'immigration en fin de semaine, mais on dirait que c'est ça que les médias, en tout cas samedi, quand je regardais les grands titres, c'était ça qui retenait. Donc, des fois, il y a comme un prisme déformant entre le réel de ce qui se passe dans un parti puis ce que les médias en font. T'sais. C'est comme Québec solidaire, leur campagne en 2022, elle avait été teintée par les taxes oranges alors que c'était loin d'être leur seule mesure.
Ouais. Parlant d'immigration, est-ce qu'on peut parler de l'annonce du troisième... d'un référendum sur l'immigration que François Legault veut faire.
Oui, il a annoncé ça. C'est pas encore clair à quel point il va le faire, mais on dirait qu'il teste vraiment le terrain puis qu'il s'enligne vers ça. J'ai hâte de voir jusqu'où il va aller. Mais il n'y a comme plus d'autre cours, tu sais. Il a tout essayé. Mm-hmm. Ils ont tout essayé pour demander au fédéral d'avoir les pleins pouvoirs puis pour gérer la crise, ou de juste avoir un remboursement, tu sais, parce que le Québec accueille à peu près la moitié des demandeurs d'asile en ce moment, mais ils reçoivent qu'une infime partie des... Puis c'est une responsabilité du fédéral, la gestion des frontières, et le fédéral ne compense pas pour les ressources qui sont nécessaires à l'accueil de ces gens-là. Donc là, je pense que c'est 1 milliard, si je me souviens bien, en fait, que le gouvernement du Québec demande pour ça, puis fait que ça va plus, là. Il n'y a plus d'autres recours rendus là après avoir reçu autant de refus. Puis aussi, on pourrait parler de Justin Trudeau qui a fait des annonces de milliards et de milliards dans des champs de compétences provinciaux. Puis quand les journalistes lui ont demandé mais pourquoi vous faites ça? Puis il a dit je m'en fous. Il a juste dit je m'en fous. Puis c'est ça aussi que PSP évoquait, c'est le fait que la diminution de la proportion des démographiques du Québec vis-à-vis du reste du Canada fait en sorte que notre rapport de force diminue. Puis de plus en plus, le Canada peut. En fait, maintenant, un gouvernement peut être majoritaire sans gagner le Québec au Canada.
Oui, c'est ça.
Donc, on peut être gouverné par un gouvernement que personne n'a élu au Québec.
Exactement.
Fait que votez oui.
Ça se pourrait très bien, tu sais, avec Poilievre, par exemple, le Parti conservateur, exactement, qui fait des chiffres en ce moment dans les sondages d'un gouvernement ultra majoritaire et nullement majoritaire au Québec. Nullement majoritaire. Là, on parle à peu près d'un, grosso modo, le même nombre de députés au Québec qu'il y aurait en ce moment. Là. Donc... il y a des questions de légitimité du Canada à nous imposer ces choses-là qui commencent à devenir de plus en plus importantes, puis ça va être important de continuer à s'y attarder. Écoutez, là, il est 13h23, puis on a une pause à faire passer, mais c'était super intéressant. On aura l'occasion d'y revenir, j'espère, même s'il reste juste 2 émissions. nous allons aller en pause, et au retour, on va parler de Gabriel Attal. Donc, à toutes. We'll be right back. Donc, nous sommes de retour en ondes et désormais, nous parlerons de la visite du premier ministre français, Gabriel Attal. Donc, je te laisse parler, c'est Félix.
Oui, c'est bon. Donc, entamé mercredi dernier, la visite au Canada du premier ministre français, Gabriel Attal, constituait sa première visite dans un pays hors de l'Union européenne depuis sa nomination par le président de la République en janvier 2024. Sa visite à Ottawa s'est amorcée avec une rencontre avec la gouverneure générale Mary Simon et un souper officiel durant lequel Attal a prononcé un discours mettant l'accent sur les valeurs partagées de liberté, de respect du droit et d'humanisme entre le Canada et la France. Donc, bon, le très classique.
Protocolaire.
Ouais, petite visite diplomatique. D'ailleurs, hein, accueil protocolaire au Canada qui était, ma foi, très long. C'est genre 15 minutes. Il passe 15 minutes dehors de la chambre des, dehors du Parlement. Comme, en tout cas, bref, ça, c'est mon édito. Mais bref. Voilà. Jeudi matin, Trudeau et Attal ont fait leur entretien en tête-à-tête dans lequel ils ont notamment discuté du sort de l'AECG, donc l'accord économique et commercial global, qui est un traité de libre-échange conclu entre le Canada et l'Union européenne, dont la ratification par la France est en péril en raison d'un refus de ratifier du Sénat, malgré un soutien de la part de l'exécutif. Donc le président et le premier ministre, et le gouvernement, soutiennent l'accord, mais sa ratification est bloquée par le législatif qui s'oppose. C'est comme une coalition entre le Parti communiste, entre le Parti communiste et la droite.
Ok, intéressant.
Ouais, intéressant. Mmh. Ce serait intéressant de
creuser. Est-ce que on sait c'est sur quel enjeu ça bloque?
Non, je ne sais pas exactement sur le point spécifique. Mmh.
Mais certainement une motivation importante de la visite du premier ministre.
Ben, c'était lié, le refus est comme surtout lié au contexte avec les agriculteurs en France.
Ouais, c'est vrai.
Récemment. Bref. Ils ont aussi pu discuter des sujets courants, dont la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien, la lutte au changement climatique. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, mais ça devait. En tout cas, sur le conflit israélo-palestinien, ça devait pas être très beau. Non, c'est pas vrai. Les ministres de l'Environnement des deux pays ont même signé pour l'occasion un accord de partenariat franco-canadien pour le climat et l'environnement. Merveilleux. Et pour finir sa visite à Ottawa, Attal a accompagné Justin Trudeau au cimetière militaire de Beechwood pour participer à une cérémonie d'hommage aux anciens combattants au monument Amichiatia. Qui est comme un monument franco-canadien. Qui n'est pas spécifiquement sur une bataille, mais en tout cas qui souligne les partenariats entre la France et le Canada au combat. Donc, très touchant. Bon, maintenant, on va passer aux vraies affaires. Jeudi en fin d'après-midi, Attal est arrivé à Québec dans le cadre de la 21e rencontre alternée des premiers ministres québécois et français, dont la dernière édition remonte en 2018 avec la visite en France de quel premier ministre? Petit quiz?
Philippe Couillard?
Oui, bravo, bonne réponse. Donc, c'était la dernière. Dans le fond, c'est une rencontre qui se tient aux 2 ans, qui est alternée, comme on l'a dit, donc les premiers ministres se visitent en échange. Puis, la dernière, la 21e était supposée avoir lieu en 2020, mais à cause de la pandémie et de tout ce bras-là, elle a été reportée justement en 2024. Donc, Legault et Attal ont donc commencé cette rencontre par un échange dans lequel ils sont convenus qu'il fallait mettre en œuvre des actions permettant d'améliorer les relations franco-québécoises dans le but de renverser le déclin du français et défendre la laïcité. Gabriel Attal a ensuite fait le premier discours devant l'Assemblée nationale du Québec depuis celui du premier ministre Laurent Fabius en 1984, donc qui était
sur
Mitterrand. Ouais. Donc il y a eu des discours de Sarkozy et de Hollande, donc qui étaient des présidents, par le passé devant l'Assemblée nationale, mais pour un premier ministre, c'était le. Pour un discours de premier ministre, c'était le premier depuis 1984. Et anecdote, hein, super. Gabriel Attal le mentionne dans son discours, mais à l'époque de Laurent Fabius, c'était le discours du plus jeune premier ministre français devant l'Assemblée nationale. Et 40 ans plus tard, c'est la même ritournelle, mais avec Gabriel Attal. Donc, voilà.
Parce qu'il est encore plus jeune que Laurent Fabius.
Puis c'est le plus jeune premier ministre français.
35 ans, c'est ça?
Ouais, 34
ans?
34, je crois. Bon, je dois l'avouer, malgré le fait que je ne sois pas un grand fan des politiques de Gabriel Attal, son discours de jeudi m'a particulièrement ému. Donc, le discours d'environ 28 minutes portait principalement sur les thèmes de la jeunesse, de l'importance et de la richesse des relations franco-québécoises, de la défense de la langue française et de la laïcité. Il soulignait aussi le destin commun qui attend la France et le Québec par leurs jeunes et rappelait aussi la tristesse d'une, je le cite, « éclipse coupable, une éclipse de 2 siècles qui a séparé nos deux nations depuis la conquête britannique. » La facette historique et chronologique de son discours est certainement l'un des aspects qui est venu le plus me chercher. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais on aurait dit que, pour une fois, la France résonnait de manière honnête, profonde et engagée, et qu'on était redevenus, pour la première fois depuis la fameuse visite de De Gaulle en 67, de vrais cousins. Son allocution a aussi été marquée par des citations qui m'ont donné des frissons et ont suscité des ovations comme « ouvre les guillemets ». Donc ça, c'est vraiment badass, préparez-vous. Certains pensaient sans doute que le français avait pour vocation à disparaître de la carte de l'Amérique du Nord. Ils ne connaissaient pas les Québécois. Ferme les guillemets. Ou, ouvre les guillemets, la laïcité est la condition de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Donc, voilà. Donc ça, c'est très épique. Puis aussi, là, j'ai aimé... Je pense pas que c'était comme voulu, mais il faisait beaucoup allusion genre aux valeurs de la République dans son discours. Il faisait comme mélanger les politiques publiques du Québec et les valeurs de la République.
En montrant une similitude.
Ouais. Fait que je sais pas si c'était comme... genre voulu que ça paraisse de même, ou c'est peut-être moi juste qui l'ai mal perçu, mais j'étais comme genre comparaison intéressante peut-être avec une future République du Québec.
Ouais.
Mais genre, tu es un petit peu discret.
Oui, c'était très discret.
Ouais, mais j'aimais ça. C'était très satisfaisant. Attal a aussi pris un moment pour honorer le 22e régiment et tous les soldats québécois qui ont par deux fois combattu pour libérer la France. Mon émotion a aussi été causée par le fait que, pour l'instant d'un discours, tous les députés du Salon Bleu ont mis de côté les tensions partisanes et applaudissaient à l'unisson, même si parfois ce que disait Attal ne correspondait pas tellement à leur position. Donc on a vu quand, justement, après que Attal ait prononcé la laïcité, la condition de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, genre tout le monde s'est levé en applaudissant, même...
même les libéraux.
Ouais, les libéraux, les solidaires, qui ont aussi été plus réticents à ce niveau-là. Fait que j'étais comme, wow, pour une fois, nos élites sont... cette scène ensemble. Bref, c'était très beau. Après le discours, nous avons aussi droit à des interventions du premier ministre et des chefs des groupes d'opposition qui étaient tout aussi électrisantes. Je pense notamment à celle de PSPP, chef du Parti québécois, qui a souligné l'importance de la relation privilégiée entre la France et le Québec, qui sont confrontés aux mêmes enjeux et le rôle clé d'accompagnement que cette dernière aura si le Québec décide un jour de faire son indépendance. Donc, il a comparé justement les interventions de la France lors des deux derniers référendums. Puis, il a comme souligné l'importance de la position de neutralité que la France a.
En fait, c'est plus comme... que de la neutralité, c'est la non-ingérence, non-indifférence.
C'est fait...
qui a un gros sens quand on y pense.
C'est comme, c'est de la neutralité engagée, si je pourrais dire.
Mais, C'est qu'on va, on va accompagner le Québec dans ce qu'il décide démocratiquement de faire, mais en amont, on ne va pas intervenir dans les affaires internes du Canada. Mais lorsque la situation viendra du référendum, on va... C'est sans le dire, ça dit un peu, on va reconnaître le choix démocratique des Québécois.
Ouais, ben justement, quand on lui a parlé justement de cette... Parce que vous avez... En tout cas, je vais continuer. Gabriel Attal a été critiqué d'avoir fait preuve d'ingérence en soutenant la laïcité au Québec, mais a répliqué qu'il était de son devoir en tant que premier ministre français de rappeler aux nations ayant choisi le modèle de la laïcité qu'elles ne sont pas seules dans le combat, puisqu'on le sait, la France est depuis 1905 un État laïque. C'est une grosse caractéristique justement de l'État français. Donc voilà, c'est un devoir de soutien. Il a d'ailleurs précisé que la relation entre la France et le Québec se caractérisait par une doctrine de respect et de sensibilité. Donc voilà, il y a un peu, quand lui, on a abordé justement ni ingérence ni indifférence, il a comme twisté, il a dit, moi je dirais plus sensibilité et respect. Sensibilité et respect. Il dit, je pense, il trouvait que c'était plus juste. C'était moins même si c'est pas tellement négatif, c'est comme moins négatif, c'était à cause du ni, aussi, l'aspect, justement, je l'ai dit un peu tantôt, mais l'aspect historique de son discours, puis le fait qu'il montrait qu'il connaissait l'histoire du Québec, ça donnait comme une impression que justement, il était investi genre dans la lutte au Québec, puis il reconnaissait les torts de la France, c'était comme un peu l'avait fait De Gaulle quand les nombreuses fois qu'il était venu. Puis, donc voilà, une chronique super intéressante dans Le Devoir à lire de Jean-François Lisée qui est intitulée
Les aspects gaulliens de Gabriel Attal, c'est ça? Quelque chose comme ça.
Ouais, en tout cas, c'est dans cet ordre d'idée-là. Puis, donc voilà, c'est super intéressant si jamais vous êtes. Des fiers Québécois. Donc, il faut aller lire ça.
Et qu'est-ce que tu as retenu de cette chronique-là, par exemple?
Dans le fond, ce que j'ai retenu, c'est que les discours qui ont été prononcés par les deux hommes d'État français, que De Gaulle et Attal, sont différents, Mais ils se rejoignent sur, justement, ce que je disais, une sensibilité, une capacité à aller chercher, genre, les Québécois.
Le sens historique.
Le sens historique.
De la relation France-Québec.
Puis sa valeur aussi, mm-hmm. tu sais, puis son importance surtout, avec des mots comme fort, tu sais, qui sont à découvert, tu sais, qui... Mm-hmm. On mange pas des mots, on dit nos affaires. Donc, voilà. Moi, j'étais quand même surpris d'entendre ça, tu sais. C'est pas particulièrement... T'sais, Attal, c'est pas un héros, genre. T'sais.
Non, c'est ça.
Fait que j'étais comme...
C'est un libéral, là, en France. C'est quelqu'un qui veut démanteler l'État-providence. Ouais. T'sais.
Mm-hmm. Fait que j'étais quand même surpris. Parce que c'est un beau discours. T'sais. Je vous invite à aller l'écouter. Mm-hmm. Donc, c'est très lyrique. C'est du haut niveau. C'est super beau. Mm-hmm. Puis quand tu prends le temps de réfléchir, tu fais comme « Ah, OK, bon. »
Ouais. Puis ça pose une question aussi sur les relations diplomatiques que doit avoir le Québec à l'étranger, puis le fait que la reconnaissance de l'indépendance du Québec implique la nécessité de tisser des liens diplomatiques avec des gens envers qui on n'est pas d'accord, mais c'est le principe de la diplomatie aussi. Si on pense juste, tu sais, 2026, les élections provinciales, le référendum pourrait effectivement être avant la fin de la décennie, 2027, 2028, 2029, ben, ça se pourrait très bien que le président américain au pouvoir, soit Donald Trump, donc qu'il faille tisser des liens avec lui puis le traiter avec respect. On pourrait dire la même chose aussi de la France en 2027, des élections présidentielles. Ça se pourrait que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella qui soit président. Donc c'est ça, c'est important que même si on n'est pas d'accord, on sache tisser des liens diplomatiques.
Puis c'était justement, ce discours-là était... genre une grande preuve de diplomatie, genre des deux côtés, comme. Mmh. C'était
du haut niveau.
Ouais. En tout cas, je savais pas que la diplomatie m'émoustillait tant, mais...
Ouais, c'est rare qu'il y ait des discours aussi intéressants diplomatiquement parlant, là. Ouais.
Non, j'étais vraiment surpris, genre je m'entendais aucunement à ça, j'étais très surpris.
Ouais. On invite tout le monde à l'écouter, c'est quand même quelque chose d'inhabituel. Mmh.
Et la réplique de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est un niveau lyrique est quand même assez élevé. Puis c'était super beau. Genre, ça aussi, ça m'a donné des frissons. Mais bref, j'ai arrêté de parler de frissons, sinon on n'en sortira jamais. Puis, donc voilà, pour finir, la visite du premier ministre Attal s'est poursuivie avec la signature de différents accords entre le Québec et la France sur des sujets comme la défense du français ou les échanges universitaires entre les deux nations, qui sont genre d'ailleurs critiqués pour être comme à sens unique. Il y a plus d'étudiants français qui viennent étudier au Québec que de Québécois qui vont étudier en France. Donc, les deux premiers ministres ont dit, je m'en souviens, dans un point de presse, qu'il allait essayer de trouver un moyen. Mais c'était très amical, là, mais d'essayer de trouver un moyen pour essayer de renverser la tendance ou du moins de l'égaliser, de la rendre proportionnelle. Puis aussi une rencontre entre certains ministres québécois et leurs homologues. Donc, je pense notamment, il y avait le ministre de la Justice, de l'Économie et l'Environnement aussi. Donc, voilà, le séjour de Gabriel Attal, il s'est fini avec une visite dans une école primaire et une visite au Salon international du livre de Québec. Et après ça, il s'est déplacé faire un court arrêt à Montréal, durant lequel il a prononcé un discours devant la communauté française de Montréal. Voilà.
Eh bien, parfait. Très cool. Merci beaucoup, Félix, pour cette chronique. Je vais te devancer la pause, comme ça, après, on aura tout le temps pour discuter de nos dernières chroniques. Donc, on va aller à la pause et au retour, on s'en va en Corée. De retour en onde. Donc, désormais, c'est ça, on fait, comme on l'a dit, un petit voyage en Corée du Sud où il y a un mouvement féministe... assez particulier, assez inhabituel qui existe et prend un peu d'ampleur. On parle du mouvement 4B avec Lily Jeanne. Donc, qu'est-ce que c'est le mouvement 4B?
Oui, le 4B. Dans le fond, je tiens à mentionner que tout propos que j'aborde aujourd'hui, c'est très, très niché. Même en Corée du Sud, on n'a pas exactement le nombre de personnes qui adhèrent parce que ça l'a récemment fait la une sur TikTok. Et puis, de TikTok, j'ai fait mes recherches. Puis Radio-Canada en a parlé, mais encore une fois, on ne sait pas est-ce que c'est un mouvement extrêmement populaire en Corée du Sud. Tu sais, c'est plus certaines féministes radicales qui y adhèrent, puis c'est en train de faire son chemin, mais pas encore totalement. Donc, je voulais juste réitérer ça pour commencer. Donc, Renaud, les 4B que tu voulais savoir. Donc, c'est quatre mots qui commencent par bi. Bi voulant dire non en coréen. Donc, le premier, c'est le... Excusez mon coréen, là. Je parle pas très bien la langue. Donc, le premier, c'est bihon. Donc, non au mariage hétérosexuel ou à tout type de mariage. Après ça, on a bishulsan, qui est non à l'accouchement. On a bihoné, qui est non aux fréquentations, à sortir avec quelqu'un. Puis après ça, on a bisexueux, qui est non aux relations hétérosexuelles de type homme-femme. Okay. Oui, relations sexuelles. Okay. Oui, effectivement. Donc, Renaud, il me fait...
Ben, ça sonne très individualiste. Je veux dire, la vie doit être triste un peu.
Effectivement, mais par contre, tout peut se faire entre femmes.
OK.
C'est seulement on rejette les hommes.
OK.
Effectivement, parce que ça prend sa source d'un mouvement qui a vu le jour en 2018, qui était Escape the Corset, qui était dans le but de rejeter les stéréotypes de beauté coréens, tu sais, qu'on a toujours la petite peau perlée, il faut être toujours bien habillé, le type femme au foyer très classique.
Il y a beaucoup d'exigences mises sur les femmes en Corée, c'est une société assez...
Effectivement, tu sais, il faut toujours être bien habillé, bien maquillé, beaux cheveux, être très mince aussi. Puis quand on est enceinte, ben on reste à la maison, puis on laisse le mari s'occuper de tout un peu. C'est comme un peu The American Dream, version...
radicale.
Oui, c'est
la société du spectacle.
Effectivement. Ouais. Mais là, toutefois, le mouvement d'aujourd'hui, là, lui, il est plus marqué par le rejet des femmes avec les relations contre les hommes. Puis tu sais, c'est pas pour combattre le système idéologique patriarcal, c'est pas pour dire « Ah, je veux combattre le patriarcat pour que ça devienne matriarcal », c'est plutôt pour pu y participer du tout, pour qu'il n'y ait aucun type de système.
Mm-hmm.
Dans ce sens que les hommes et les femmes soient sur un pied d'égalité, on va dire. Puis, tu sais, briser le stéréotype aussi de la beauté féminine. Parce que, on le sait, en Corée du Sud, en plus qu'il y a beaucoup de critères de beauté, il y a aussi une énorme inégalité entre les hommes et les femmes. J'ai fait des recherches, puis selon le Forum économique mondial, le pays est classé 105 sur 146 pays quant aux inégalités de sexe. Aussi, la Corée du Sud, c'est le pays ayant le plus faible taux de natalité. La Corée, à cause de ça, a mis en œuvre des politiques qui, au contraire de la Chine, incitent les femmes à faire des enfants. Mais les femmes qui adhèrent à ce mouvement-là voient ça plus comme une instrumentalisation de leur corps et refusent de faire des enfants. Puis aussi, les femmes qui adhèrent à ce mouvement se rasent les cheveux pour briser les stéréotypes corps de la beauté. Puis... ils mangent comme ils veulent, ils gênent pas. Tu sais, c'est vraiment pour faire « on a terminé avec ça, ciao, bye ». Puis le plus important là-dedans aussi, c'est que... une autre source. Selon l'OCDE, les hommes gagnent 31% de salaire de plus que les femmes sur le marché du travail.
Bon.
C'est quand même important, je l'ai réitéré aussi, là. Mais bon, selon le Human Rights Watch, la violence conjugale envers les femmes est énormément répandu au pays. On pense notamment qu'en 2016, il était de 41,5%, alors que mondialement, c'était seulement 30%. Donc, on voit que les femmes sont extrêmement...
Ils ont peut-être leur raison un peu.
Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais.
Comme quoi, le feu attire le feu.
Puis, il ne faut pas oublier non plus le upskirting et les caméras cachées. Savez-vous c'est quoi le upskirting?
Ça me dit non.
OK, ben on sait c'est quoi un skirt en anglais, c'est une jupe.
Ouais.
Fait que upskirting, c'est qu'exemple, une femme va monter les escaliers, un homme en dessous va prendre une photo pour aller ou juste marcher à travers dans la rue, en dessous de sa robe, poup, une petite photo. Puis ils mettent des caméras cachées aussi dans les cabines d'asseyage, dans les hôtels, la surveillance. Tu sais, comme même les femmes qui voyagent de l'Occident, qui vont en Corée, ils se font souvent suivre, ils se font souvent espionner, ils se font écouter. C'est toutes des choses comme ça, un peu, que les femmes essaient de défendre. Mais le mouvement, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de critiques qui viennent avec ça, parce que ça relève d'une branche d'un féminisme radical, tu sais, comme le rejet du patriarcat, qui est quand même un très grand système très difficile à démonter. Ils veulent aussi sortir d'une relation de domination des hommes. Ils mettent beaucoup d'emphase sur la domination. Parce qu'encore une fois, ils se sentent extrêmement dominés. Ils veulent la réappropriation de leur corps. Puis ils créent, en faisant ça, une culture féminine alternative carrément, puis un séparatisme de sexe.
Ouais. Puis est-ce que tu peux vivre de façon purement séparée?
C'est ça.
Puis espérer que ça va changer les rapports, tu sais?
C'est ça. On a été
comme un rejet.
Élevés comme ça, tu sais, à être homme-femme. Les hommes
souvent... Mais on est un peu condamnés à l'être aussi, là. En tout cas.
Ah oui?
Ben, je veux dire,
Ben, les femmes, oui, là.
Ouais, non, mais je veux dire, les hommes et les femmes vont continuer d'exister.
Oui, non, c'est ça, c'est sûr. Mais c'est plus dans le sens que, tu sais, on a été élevés dans nos rapports de sexe.
Mm-hmm.
Puis c'est toujours les hommes qui ont toujours été un peu en situation de...
Privilège.
Oui, privilège, on peut dire ça comme ça. Mais...
Ça semble particulièrement le cas en Corée du Sud.
Quand tu le regardes de façon générale, tu dis « ça m'étonne, ça rentre pas dans la branche radicale. » Du moins, comment moi je le vois. Parce que, tu sais, je dirais « je veux pas coucher avec un homme. » Ça a l'air correct, mais tu sais, quand tout le monde commence à le faire, tu te dis « wow, minute, qu'est-ce qui se passe avec la démographie de mon pays à long terme? » Qui est sa deuxième critique, notamment parce que, tu sais, comme on vient de le dire, le taux de natalité est extrêmement faible. Ils veulent plus faire d'enfants. Puis tu sais, on l'a vu... Souvenez-vous, est-ce que vous vous souvenez qu'il y a eu des recherches scientifiques que l'on a réussi à produire un embryon avec des cellules que féminines?
Hein?
Ouais, il y a eu un truc de laboratoire, là. Vous vous rappelez, il y avait comme des questionnements de est-ce qu'on peut survivre sans les hommes? Est-ce que, genre, avec nos...
Hein?
Ouais. C'était comme en 2000...
Non, j'ai jamais vu ça.
20, quelque chose comme ça, là. Il y avait des scientifiques qui avaient réussi à créer un embryon avec... deux gènes de femmes.
Wow.
Ouais, il y avait eu quelque chose comme ça, puis je me rappelle, ça avait fait du blabla de « que va devenir notre avenir si les hommes ne participent plus? »
C'est une source fiable. T'es sûr de ça? C'est vrai que tous mes cours de biologie 101 me font dire...
Non, je te jure, si...
Chromosome X, Y, là...
Oui, je te jure, non, mais c'était fait à base de... Tu sais, c'était... À l'extérieur okay, du corps, là, en tout cas,
on est en politique, peut-être qu'on devrait pas s'avancer là-dessus. Là.
Je me parle pas là-dessus, mais je me rappelle très bien qu'il y avait eu, face à ça, que c'était comme la rumeur qui avait découvert ça, et que là, il y avait eu des questionnements de « que va devenir notre avenir si les hommes ne participent plus à la reproduction sexuelle?
Mm-hmm. »
Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, ça, les hommes en Corée sont un peu perplexes par rapport à ça, aussi parce que ça reviendrait à la même conclusion. T'sais, ça serait comme « les hommes ne vont plus exister à long terme. » Puis, il est aussi critiqué pour manquer d'intégration envers les femmes trans, parce que les femmes trans se sentent pas incluses dans le mouvement. Puis, ils sentent rejetés vu qu'ils étaient anciennement des hommes. Fait que, vraiment, là, c'est un mouvement vraiment seulement pour les femmes qui s'identifient pas au genre, mais au sexe féminin. Donc, encore là, on voit que c'est plus radical que qu'est-ce que ça semble globalement.
Et le diable est dans les détails. Ok, c'est une petite joke. Non.
Est-ce que t'étais-tu en train de checker pour le.
Ouais, l'affaire que tu disais là, sur la 2020. Là, le... Ok, non, j'ai pas vu de source fiable encore. Donc, on regardait un degré de précaution là-dessus.
Je suis désolée. Là.
Est-ce
mais...
que,
ben, non, mais c'était juste un petit blabla que je voulais dire qu'en 2020.
Ok, hey, bon, là, on l'a échappé, excusez. Retournons à nos moutons. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que tu souhaitais...
Ben non, c'est seulement pour dire que le mouvement fait beaucoup de blabla en Corée, puis on voit que c'est quand même quelque chose d'important qui laisse à désirer. Qu'est-ce que ça va donner dans le futur si ça persiste, notamment aux côtés de la reproduction? Est-ce que ça serait la fin de l'avenir pour les hommes en Corée? On le sait pas, toi, Renaud.
Moi, je vais te mettre un degré de précaution là-dessus. Là.
Ouais.
Moi, je vais mettre ta précaution là-dessus. On va prendre ça avec des pincettes. On demandera à Florence Choquette, qui est une spécialiste de la Corée, qui est maintenant à la maîtrise.
Ouh,
ici.
Oui,
donc,
effectivement.
Elle va pouvoir sûrement nous éclairer là-dessus.
Et ça prouve, une fois, qu'avoir un régime qui est plus équilibré entre l'égalité des sexes, ce n'est qu'avantageux.
Amen.
Effectivement.
Donc, merci beaucoup, Lilijane, pour cette chronique. Il nous reste maintenant un beau 7-8 minutes pour ma chronique. C'est ça, c'est correct. C'est correct, on fait ce qu'on peut. Donc, anyway, c'est pas grave. Allons-y tout de suite d'entrée de jeu. Donc, c'est ça, comme j'ai mentionné en introduction de l'émission, il y a eu un projet de loi qui a été déposé par un député acadien qui s'appelle René Arsenault, depuis 2015, affilié au Parti libéral, qui souhaitait rendre le serment au roi optionnel. Il faut savoir que, ben, on le sait, pour le Québec, c'était une question sensible, notamment historiquement, et du fait que nous, au Québec... on n'a pas d'attachement particulier au roi, donc pourquoi est-ce qu'on lui porterait serment? C'est un peu hypocrite comme serment. On peut aussi parler du fait que le Bloc québécois, lorsqu'il est entré en fonction en 2021, n'ont pas prêté un serment qu'il disait sincère. Et François Blanchet disait « le serment que j'ai porté au roi n'était pas sincère », ce qui avait soulevé une grande controverse où le député avait dit, dans ce cas-là, si c'était pas sincère, il faut qu'il soit expulsé de la Chambre. Finalement, le président Anthony Rota, l'ancien président, on avait déjà discuté en ondes parce que c'est lui qui avait amené un nazi aux communes. Eh bien, ce président-là avait dit à l'époque, c'est correct, il peut siéger. Mais là, la question, elle est revenue. Puisqu'il faut savoir, René Arsenault, dans son histoire personnelle, a été le premier avocat acadien à être admis au barreau sans prêter serment à la couronne britannique. À l'époque, c'était la reine Elisabeth II. Et il avait dit, c'est ça, je ne porterai pas serment. Et après plusieurs années de combat, il avait réussi à être admis sans prêter serment à la couronne. Et il voulait répéter cette logique-là, qui est très enracinée dans l'histoire acadienne. Il faut se rappeler de ce qu'on appelle le grand dérangement de 1755, où en fait, au nom de ce serment au roi-là, au nom de la couronne britannique et de l'Empire britannique, on avait justifié la déportation de milliers et milliers d'Acadiens vers la Louisiane, ce qui a laissé un traumatisme très fort en Acadie. C'était une marque historique dans leur histoire. Et au nom de ça, mais aussi au nom de choses plus globales comme l'objection de conscience, qu'on ne peut pas, au nom de ça, prêter serment à la couronne, eh bien, René Arsenault avait dit qu'il allait déposer ce projet de loi pour rendre le serment au roi optionnel. Et ça a fait en sorte que ça a été déposé, il y a eu un vote, et ça n'a pas passé par quand même une majorité significative. On parle de 197 députés contre, je ne me souviens plus exactement du nombre, je crois que 113 députés qui ont voté pour, 197 contre, quelque chose comme ça. Eh bien, pour la répartition des votes pour, contre, on peut dire le Bloc québécois, évidemment, de façon unanime, a voté pour le projet de loi. Même chose pour le NPD, dont je salue l'engagement à ce titre. Tous les députés libéraux et conservateurs du Québec ont voté pour le projet de loi également, puisque c'était ça au Québec, c'est un consensus général, surtout depuis ce qu'a fait le PQ l'année dernière. Et eh bien, évidemment aussi les députés acadiens libéraux, sauf les ministres. Et ça inclut aussi les ministres libéraux du Québec, puisque au niveau du gouvernement libéral de Trudeau, même si on a laissé le vote libre à notre caucus, on a jugé que par solidarité ministérielle, il fallait que tous les ministres votent du même bord, et ils ont tranché qu'il fallait voter contre ce projet de loi-là. Ils ont évoqué, selon le constitutionnaliste Patrick Taillon, un prétexte qui est, à son sens, fallacieux, qui est que ça impliquerait une réouverture de la Constitution et donc de revenir à tous les traumatismes, les cicatrices, notamment du lac Meech, Charlottetown, ces choses-là. Et pourtant, c'est selon René Arsenault et Patrick Taillon, l'observateur constitutionnaliste, c'est pas nécessaire, en fait, puisqu'on parle ici d'une modification très mineure à la Constitution, et à ce titre, le Parlement canadien a une prérogative qui lui permettrait de le faire sans rouvrir tous les débats fratricides qui, on le sait, maintenant, la Constitution canadienne n'est plus réouvrable. Ce qui explique aussi pourquoi la question des Autochtones reste figée, globalement figée sur des questions profondes au Canada. Et donc, c'est ça n'a pas passé. On peut aussi parler de Pierre Poilievre et la majorité de son caucus qui ont voté contre également. En fait, en dehors majoritairement du Québec et de l'Acadie, ça a voté contre le projet de loi. Donc, ça, je tiens à le souligner puis à dire ma déception à ce niveau-là. Puisqu'on parle quand même, on donne un prétexte qui est à mon sens faux pour éviter d'aborder une question sensible et très profonde pour les Acadiens. Puis ça démontre encore une fois que l'Acadie, malgré sa volonté de travailler au sein du Canada et du fédéralisme, voit ses intérêts rejetés. Je tiens à le dire, c'est assez déprimant à ce niveau-là. Et ce qui est encore plus déprimant et carrément choquant, c'est ce qui est arrivé suite au vote final et au rejet du projet de loi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs députés à la Chambre des communes qui sont mis à entonner un « God save the king » très impérial, très royaliste.
Très gras.
Très gras, très colon, comme tu as mentionné. C'est vrai, Félix, c'est vraiment colon. C'est humiliant. C'est humiliant aussi pour tous les Acadiens qui ont vécu ces traumatismes-là puis qui sont transmis de génération en génération. Puis on pourrait faire un balado là-dessus, comment c'est difficile en ce moment en Acadie, puisque eux, le déclin démographique structurel dont on parlait que le Québec vit, ben eux, ils vivent en accéléré. On parle d'une population qui est de plus en plus minorisée, notamment le gouvernement conservateur du premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a été élu sans le soutien des Acadiens et fait des mesures anti-acadiens, anti-français, où on diminue progressivement les services auxquels ont droit la population acadienne là-bas. Il y a toutes sortes d'enjeux. Il y a le contrôle économique, notamment des familles comme les Irving, Nouveau-Brunswick qui persistent. Je me demande quelle sera la réflexion de Renaud Arsenault là-dessus, puisque c'est vraiment, comme le souligne une chronique dans Radio-Canada, ce qui vient de se passer, c'est du sel sur une blessure, tu sais. Ouais. Vraiment, là...
Je trouve que c'est rare qu'un truc aussi flagrant arrive. Ouais. C'est comme un des premiers que moi, je suis conscient, tu sais.
Ouais. C'est du mépris impérial assumé.
Ouais, puis direct, sans aucune demi-mesure.
Ouais. Alors qu'il n'y avait pas de réel problème à faire passer ça là, pour le gouvernement. Là. C'est déplorable. Il y a des ministres, notamment Marie-Claude Bibeau ou d'autres, qui ont voté contre le projet de loi, qui ont dit « c'était pas une priorité ». Est-ce que c'est justificatif? Je veux dire, on parle d'un vote qui a été amené sur le plancher, rendu là, oui, pour final, vote contre, ouais. Je veux dire, puis après c'est fait. Puis après, tu peux retourner. Ça a pris quelques minutes. Puis après, on retourne à lutter contre l'inflation.
Puis c'est un truc qui, en soi, si ça passe, genre, nécessite pas tant de grands moyens, mais quand même c'est un impact conséquent. Genre,
exact.
C'est comme un mauvais calcul politique aussi. Là,
ouais.
Bon,
ouais.
On parle toujours d'unité canadienne. Mais...
Ouais. C'est à voir comment l'Acadie, justement, va réagir à ça, notamment parce que les Acadiens, on le sait historiquement, ils votent toujours, pratiquement toujours, du côté libéral, puisque c'est les libéraux qui ont fait passer les lois sur les langues officielles, etc., à voir si il va y avoir un switch à ce niveau-là. Est-ce qu'un bloc acadien pourrait revenir? Parce qu'il y a déjà un parti acadien, fun fact, en Acadie. La question est sur la table, je lance ça comme ça.
Puis ça donne du stock aussi. Bon, en tout cas, ça donne des arguments de plus aux indépendantistes de faire l'indépendance. Donc,
absolument. Puis il y a tissé des liens aussi... Ouais. Avec l'Acadie.
Renouer les liens.
Les élections vont s'en venir. On sait que Yves-François Blanchet s'était déjà rendu en Acadie pour faire campagne là-bas. À suivre.
Puisque les francophones hors Québec, il faut le rappeler, c'est très important.
Très important. Ouais. Mais bien, voilà, ben, ça conclut l'émission. Hein. Oh, oui, Lijan.
Est-ce que je veux faire un petit pouce sur ce que j'ai dit tantôt?
Oui.
J'ai fait mes recherches, là.
Oui.
Oui. Donc, Radio-Canada a publié en 2016 un article disant que deux femmes avaient... Effectivement, il y a eu un mâle qui était impliqué dans la reproduction seulement pour féconder. Et une fois que ça a été fécondé, ils ont toutefois mis l'ADN des deux mères.
Ah, tu vois.
C'est ça que j'essaie d'expliquer, mais je pense que je me suis mal exprimé.
Non, c'est correct.
C'était ça, vraiment, c'était l'ADN.
Ça prend une gamète mâle. Ça prend une gamète mâle,
mais pourtant, c'était l'ADN. C'est ça que je voulais dire. Et là, sur les réseaux sociaux, ça a fait un énorme blabla de genre, est-ce que c'est le début de les femmes qui se reproduisent entre eux, tu sais?
Ouais. Ouais.
Des choses comme ça. Je suis désolée à nos auditeurs. C'était un manque d'information.
Mais c'est correct. C'est correct. On n'a pas... on se fera pas... on ne sera pas flagué par le CRTC. C'est ça, on est correct. On n'est pas des coupables des informations massives.
On n'est pas Radio-Québec. Hein, donc... Allez hop.
Bonne ref. Ouais, les conspies, là, de... Lui, c'est quoi son nom déjà?
C'est Alexis Cossette.
Cossette Trudel, ouais, c'est ça. Ah ben, on salue là où il est. On salue surtout ses parents qui étaient des felkistes.
Ouais.
OK. Ben, merci beaucoup, Félix, Lijan, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à tous nos auditeurs. On a busté un peu le 1 heure, mais écoutez, c'est correct, ça arrive.
Ouais, c'est le fun.
Yes. Donc, merci tout le monde et à toutes.
Merci. Bonne semaine.